Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons vu dans notre dernier sermon sur la doctrine qui est Dieu, je ne parle pas du sermon sur les saints que je vous ai fait pour la Toussaint, ni du sermon sur le Christ roi. Nous avons donc vu les rapports entre la foi et la raison. Et je vous ai montré pourquoi il était important que le Concile Vatican I définisse ces vérités, de même qu'il était important que saint Thomas d'Aquin ouvre sa somme théologique par ces distinctions et ces rapports entre la foi et la raison. Cependant, il est évident que ce qui nous intéresse, c'est la foi. Et il est évident que si la raison a de l'importance, c'est parce qu'elle est au service de la foi, comme une servante, et qu'elle nous permet de mieux pénétrer les vérités de foi, puisque, je vous l'ai expliqué, la foi, la révélation, n'est pas quelque chose en l'air, mais s'adresse à notre raison qui est élevée, surélevée, par la lumière de la grâce, par la lumière de la foi, de même que toute notre humanité est adoptée pour devenir héritière de Dieu avec Jésus-Christ. On a dit par exemple que saint Thomas d'Aquin était un excellent philosophe. On parle par exemple de la philosophie de saint Thomas d'Aquin, mais saint Thomas n'est pas un philosophe, il est un théologien qui se sert de la philosophie. Je me sers de la raison pour vous éclairer, mais c'est évident que c'est pour nous mettre à l'école de Dieu et non pas pour faire des recherches humaines. Car Dieu s'est révélé. Première partie de ce sermon, Dieu s'est révélé. Deuxième partie, où trouver la parole de Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est ainsi que l'Esprit Saint s'exprime sous la plume de saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Dieu nous a parlé par le Fils. Et puis également, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, c'est saint Jean qui parle, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, le texte latin dit même que nos mains ont palpé concernant le Verbe de vie. Le Verbe de vie, c'est Jésus-Christ. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Saint Jean a vu le Verbe de Dieu, de l'humanité du Christ. C'est pour ça que le symbole de l'évangéliste Saint Jean, c'est l'aigle, parce qu'il a pénétré plus que les autres dans les hauteurs de la révélation divine et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu s'est révélé, ce n'est pas seulement pour se faire connaître, c'est pour nous donner l'héritage. C'est pour que nous soyons en communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ, ou que nous vivions dans la sainte société du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dit saint Pierre. C'est à la fois une élévation de notre nature. La meilleure manière de l'exprimer, c'est que d'héritier des choses terrestres et humaines, nous devenons par là héritiers de Dieu avec Jésus-Christ. Et en même temps, en plus d'être une élévation, c'est la communication d'une vie intérieure, d'une vie d'intimité. Les amis de Saint Jean Bosco sont à la Villeneuve en ce moment je les ai réunis au début de leur activité. Je leur ai dit, mais pourquoi? Pourquoi venez-vous ici? Pourquoi avez-vous fait les exercices de Saint-Ignace cet été? C'est pour être fidèle aux inspirations du Saint-Esprit, c'est pour suivre le Saint-Esprit. Et je pense que même à des jeunes de 14 ans, il est nécessaire de rappeler cela, peut-être même plus encore à des jeunes de 14 ans qu'à d'autres, parce que ils ont toute leur vie à faire, et qu'est-ce que c'est que faire sa vie? Si ce n'est entrer dans la communion du Père et du Fils avec le Saint-Esprit. Et je vous garantis qu'ils m'écoutaient beaucoup, parce qu'ils savent que c'est le langage vrai. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas sur la terre pour avoir tel métier ou faire telle chose ou se marier ou que sais-je. Tout ça, ce sont des moyens. Ils sont sur la terre pour être fidèles au Saint-Esprit qui les met en possession de l'héritage divin révélé par Jésus-Christ. J'ai souvent entendu mon père dire « N'oubliez pas, mes enfants, que notre religion est révélée ». Il le rappelait à cause des modernistes qui inventent des choses, qui changent les choses, qui se croient maîtres de la religion, qui croient avoir un pouvoir sur la révélation, sur sa mise en œuvre, sur sa mise en pratique, sur son interprétation, que sais-je. Et face à ces modernistes, avec le Concile Vatican II, nous étions en plein dedans lorsque j'étais jeune, plusieurs fois j'ai entendu mon père nous rappeler « Attention, mes enfants, n'oubliez pas que notre religion est révélée. Elle vient de Dieu, elle ne nous appartient pas. » Puisqu'elle est révélée directement par Dieu, c'est donc Dieu qui lui donne son autorité, bien sûr, et il est évident que tous les révoltés, les protestants, qui ne se cachent pas d'être révoltés, puisqu'ils sont protestants et ils protestent, les modernistes, qui eux se cachent un petit peu plus d'être des révoltés, mais qui veulent tout changer, il est évident que tout cela, et bien d'autres bien entendu, veulent se débarrasser de l'autorité de la révélation, de l'autorité de Dieu, et pour cela, ils vont inventer tous les moyens pour faire de notre sainte religion quelque chose d'humain et non pas de divin. Oui, un regard humain sur Dieu, mais pas une révélation de Dieu qui s'adresse aux hommes. C'est pas du tout pareil. Par exemple, l'Écriture sainte a pour auteur Dieu. Ce qu'on appelle les auteurs des livres sacrés, d'ailleurs c'est un abus, on devrait dire les écrivains sacrés. Donc Isaïe, Moïse, David, qui sont les écrivains sacrés, ne sont que les secrétaires du bon Dieu. Les modernistes, eux, en font de véritables auteurs qui nous révèlent leurs réflexions, leurs pensées, le fruit de leur contemplation, après avoir vu quelque chose de divin. Méfiez-vous de ceux qui donnent une importance primordiale à l'écrivain sacré. Il est fort probable que vous ayez là un moderniste qui cherche à diminuer l'autorité de Dieu en détournant votre attention sur celui qui n'est que le secrétaire. Deuxième partie de ce sermon, où trouver la parole de Dieu? Dans l'Écriture sainte et dans la tradition. Il est assez probable que certains d'entre vous vont être assez surpris de ce que je suis en train de leur dire, mais c'est l'enseignement du Concile de Trente et qui déclare hérétique celui qui n'accepte pas cela. Hein. Toutes les deux, l'Écriture sainte et la tradition, sont la parole de Dieu. L'une écrite et l'autre non écrite, et, dit le Concile de Trente, transmise, la tradition, transmise de main en main, après avoir été reçue de la bouche des apôtres, transmise de main en main, sous la dictée du Saint-Esprit, est parvenue jusqu'à nous. Et le Concile de Trente continue, « Le Saint-Concile reçoit et vénère avec le même sentiment de piété et le même respect tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que les traditions elles-mêmes, concernant la foi et les mœurs, comme venant de la bouche du Christ ou dictée par l'Esprit Saint et conservée dans l'Église catholique par une succession continue. Dieu a parlé, c'est un peu comme dans une famille, vous savez. Dans une famille, il y a des traditions, des choses qui se transmettent. Par exemple, ce que je viens de vous dire de mon père, j'ai reçu énormément de choses de mes parents. Ils ne me l'ont pas écrit, la plupart du temps, ils ne me l'ont pas écrit. Un certain nombre de ces choses, je vais les écrire, ou je les ai déjà écrites, et vous pourrez les lire. Mais la plupart de ces choses, vous direz, « Ah, monsieur l'abbé Pivert parlait de son père, et disait que... » Et puis après ça, vous direz, « Ah, le père Marcel Delacroix nous disait qu'il avait entendu monsieur l'abbé Pivert dire que son père enseignait ou disait telle chose. » Et oui, c'est la tradition. La tradition vous paraît fragile, parce que ça peut être déformé, mais les livres aussi sont fragiles. Ils peuvent être déformés, ils peuvent être sujets d'erreurs, il peut y avoir des mensonges. Dans les deux cas, il faut une providence particulière de Dieu qu'il donne à son Église, parce que lorsque Jésus-Christ a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles, et quand il a dit « qui vous écoute, m'écoute », et ça il a dit un moment solennel puisque c'est le soir du Jeudi Saint, « qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise ». Lorsque notre Seigneur dit cela, il affirme qu'il veille sur son Église de manière à la garantir indemne de toute erreur, de toute déviation. Et il leur dira encore, juste avant de monter au ciel, « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Vous me direz, bah « Alors, toutes les erreurs qu'on entend aujourd'hui dans l'Église, mais justement, vous savez bien, vous, mes bien chers frères, qu'elles sont étrangères à l'enseignement de Dieu, qu'elles sont professées par des hommes d'Église, mais non pas par l'Église. Vous savez très bien, mes bien chers frères, que toutes les erreurs modernes sont le contraire du catéchisme. Et c'est justement parce que vous avez un enseignement garanti par Dieu à travers les siècles que vous pouvez juger ce qui est conforme et ce qui n'est pas conforme. Et donc faites bien attention. Il ne parlait pas de l'Église lorsqu'il s'agit du modernisme, il s'agit des hommes d'Église. Il s'agit de gens qui veulent investir l'Église, qui veulent subvertir l'Église de l'intérieur. Saint Pie X le dit. Mais ils ne sont pas l'Église, ils ne parlent pas au nom de l'Église. Notre pape François est un homme qui devrait parler au nom de l'Église, qui a été investi de sa fonction pour cela et qui en profite pour subvertir l'Église. Bien plus, à dignité égale, la tradition a une triple priorité sur l'Écriture sainte. Oui, elle a la même valeur, la même dignité, le même respect, bien sûr, c'est le Concile de Trente. Mais la théologie et l'Église nous enseignent, tout d'abord qu'il y a une priorité chronologique, à savoir que tout ce qui a été dit a d'abord été oral, et ensuite a été écrit. Et donc la tradition a commencé, et l'Écriture sainte est venue après. Il y a également une priorité d'extension ou d'interprétation, à savoir que c'est la tradition qui interprète l'Écriture sainte et non pas l'inverse. Parce que saint Paul nous dit, attention, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Et si nous prenions l'Écriture sainte toute seule, elle n'aurait pas ce caractère vivant, non pas vivant au sens de changement, mais vivant au sens de transmettant la vie. Vous avez beaucoup de choses qui sont dans la tradition et qui ne sont pas dans l'Écriture sainte. Par exemple, l'extrême-onction, le sacrement d'extrême-onction, s'il n'y avait que l'Écriture sainte, on pourrait douter que ce soit un sacrement. Ça pourrait être un sacramental. ou autre chose, savoir quels sont les livres authentiques de l'Écriture sainte, ce n'est pas dans l'Écriture sainte que vous le verrez, parce que vous pourriez toujours dire « Oui, mais cette liste qui est dans l'Écriture sainte est-elle authentique elle-même ?» Donc la déclaration des livres authentiques de l'Écriture sainte, c'est la tradition. C'est pour ça que les protestants, quand ils ont des livres qui les gênent, ils déclarent qu'ils ne sont pas dans l'Écriture sainte. C'est évident, ils n'ont pas de tradition. Alors ils font ce qu'ils veulent. Tandis que nous, nous avons une tradition révélée, et le Saint-Esprit veille à cela, nous savons quels sont les livres de l'Écriture sainte et quels sont les livres apocryphes. Et puis vous avez enfin une priorité d'enseignement qui appartient à la tradition et qui n'appartient pas à l'Écriture sainte. Pratiquement tous, vous avez connu la religion catholique en l'entendant, par l'enseignement oral, c'est-à-dire par la tradition. Rares sont ceux d'entre vous qui ont découvert la foi dans l'Écriture sainte. Ils ont conforté la foi dans l'Écriture sainte, surtout dans l'Évangile et dans le Nouveau Testament. Mais il ne faudrait pas croire que des chrétiens qui n'ont pas lu l'Écriture sainte soient des mauvais chrétiens, parce que toute la sève de l'Écriture sainte, ils l'ont eue dans le catéchisme, dans les sermons, dans les enseignements de l'Église. Vous me direz, oui, mais dans l'Église, il y a des traditions humaines. Par exemple, le grégorien n'est pas révélé, pourtant c'est une tradition. Mais oui, mais justement, l'Église prend bien soin de vous dire ce qui est une tradition révélée et ce qui est une tradition d'usage. L'Église ne vous a jamais enseigné que le grégorien a été enseigné aux apôtres par Jésus-Christ. Jamais. Vous le savez très bien, d'ailleurs. Cela ne veut pas dire que les traditions humaines soient négligeables. Hein. Le grégorien est loin d'être négligeable. Enfin, il n'est pas divin. Tandis qu'il y a la révélation, la tradition révélée, qui, elle, est divine, qui a pour auteur Dieu. Bien sûr, les mots pour l'exprimer changent, mais, et encore pas tous, hein. Quand on parle de transsubstantiation, par exemple, c'est un mot qui ne changera plus jamais, qui ne peut plus changer. Disons que les mots peuvent changer, mais la vérité exprimée par les mots, elle, ne change jamais. Même lorsqu'on n'utilisait pas le terme de transsubstantiation pour parler de la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, on exprimait la même vérité. La tradition vous est d'autant plus nécessaire pour comprendre l'Écriture sainte que l'Écriture sainte est très riche et qu'elle contient quatre sens. Ça aussi, c'est une vérité qui est importante. Vous avez d'abord le sens littéral, les mots, avec le sens historique. Par exemple, la Genèse est historique. Les choses se sont passées comme elles sont décrites. Mais Dieu n'écrit pas qu'avec des mots. Nous, les hommes, nous ne pouvons écrire qu'avec des mots. Mais Dieu peut écrire également avec des choses, si je puis dire. Le déroulement des événements, les choses, ont une signification parce que Dieu est maître de tout cela. Et donc, le sens littéral peut contenir, comme la coquille va contenir l'œuf ou le jaune de l'œuf, peut contenir un sens allégorique ou prophétique, c'est-à-dire une annonce, peut contenir un sens moral sur le comportement du chrétien, sur la vie chrétienne, et peut contenir un enseignement sur la vie éternelle. Alors ne confondez pas cela avec l'allégorie, je ne vous parle pas d'allégorie. Il est évident que la traversée de la mer Rouge n'annonce pas la traversée de l'Atlantique pour la christianisation de l'Amérique du Sud, par Christophe Colomb. Mais la traversée de la mer Rouge, le sens littéral, c'est que les Hébreux ont traversé l'eau, entre deux murs d'eau, c'est une vérité de foi, ça. Mais cela exprime aussi, c'est pas que ça nous fait penser à, mais cela exprime aussi l'annonce du baptême, le baptême qui est annoncé par là. C'est ce que nous avons dans la cérémonie du samedi saint, hein. Le sens moral, la confiance en Dieu Tout-Puissant. Vous avez Moïse qui arrive devant la mer Rouge. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu étends ton bâton, et puis l'eau s'ouvre. Et puis un sens quant à la vie éternelle, il est évident que la traversée de la mer Rouge exprime la traversée de la vie du chrétien qui entre dans la vie éternelle. La terre promise, c'est la vie éternelle. Le sacrifice d'Isaac par Abraham, c'est évidemment l'annonce du sacrifice de Jésus-Christ, par Dieu le Père, et ainsi de suite. Alors vous comprenez que cette richesse très grande de l'Écriture sainte ne vous sera accessible que si vous avez un guide, et vous risquez énormément d'erreurs si vous n'avez pas ce guide. Et ce guide, c'est la tradition. Alors je vous mets en garde et je vous demande de mettre les autres en garde. Aujourd'hui, les gens qui sont perdus, qui n'ont plus confiance dans l'enseignement de l'Église, se disent « je vais ouvrir la Bible et je trouverai la vérité ». Eh bien, la Bible a tellement été, les interprétations de la Bible ont tellement été déformées par les protestants qu'en lisant la Bible, ils ne comprendront pas. Ou encore, quand ils découvriront les mœurs bibliques, ils seront scandalisés. Et ils passeront à côté d'autres choses, d'ailleurs, qui sont très belles et très riches. Alors je termine ce sermon, encore une fois un petit peu long, mais c'était difficile de le faire plus court, et puis il faut vous donner les explications et vous montrer en quoi tout cela est important. Ces sermons de doctrine, c'est Mgr Lefebvre qui m'a recommandé de les faire. Mgr m'a dit, il faut distribuer tout le catéchisme dans les sermons du dimanche, sur un cycle de 3 ans. Et il m'a dit, ça se faisait beaucoup autrefois dans tous les diocèses. Étant donné la difficulté des temps, je vous donne un petit peu plus que du catéchisme. Je vous donne un catéchisme bien avancé. Parce que vous allez être livrés à vous-même, et il faut que vous ayez suffisamment de bagages et de connaissances et de convictions pour arriver à tenir au milieu de la tempête actuelle. Donc je termine toute cette semaine jusqu'à dimanche prochain, et pensez à cela dans vos méditations, la grandeur de Dieu qui est la bonté de Dieu qui se révèle à nous, qui s'abaisse jusqu'à nous, et qui nous fait partager son héritage, qui nous fait vivre de la vie du Saint-Esprit. Tout cela, c'est la religion révélée. Désormais, depuis la révélation, c'est-à-dire depuis le début, nous vivons dans le monde de Dieu. Faisons bien attention à ne pas avoir l'esprit du monde profane. De ne pas voir le ciel comme une étape ultime, mais de le voir vraiment comme ce dans quoi nous sommes déjà totalement immergés. L'Écriture sainte nous dit, nous nous tournons dans les choses du ciel. Où que nous nous tournions, ce sont des choses célestes qui s'offrent à nous et dans lesquelles nous vivons. Que Dieu vous bénisse, mes bien chers frères, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.